Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, antiracisme, touche pas à ma lutte. Dans notre société, on ne devient pas blanc, on est de cette couleur, entre guillemets, avec tous les privilèges qui y sont attachés. Cette blanchitude n'est ni raciale ni génétique, bien qu'immigrée, parce que née à l'étranger de parents non français, je n'ai au cours de mes 50 et quelques années de vie en France jamais subi un contrôle au faciès, jamais été fouillée au corps, jamais été insultée par un policier. Ces mots, ce sont ceux du journaliste Alain Grèche, auteur ici d'une tribune publiée dans Le Monde le 13 novembre dernier et intitulée « La lutte antiraciste n'est pas un privilège blanc ». Quelques mois plus tard, c'est en fait la déclaration de la ministre de la Famille, de l'Enfance et du Droit des Femmes qui met le feu aux poudres en comparant publiquement les femmes qui portent le voile à ces nègres, dit-elle, américains qui étaient pour l'esclavage. Lorsqu'on regarde les trajectoires de cette nouvelle voix, de ces nouvelles personnalités de la lutte antiraciste qui émergent aujourd'hui, c'est cette phrase qui fait souvent office de dénominateur commun, celui d'une colère et d'une injustice ressentie qu'aucune association n'est venue apaiser ni défendre. Comment s'étonner que les jeunes racisés ne fassent pas confiance à ces organisations et soit tenté de s'organiser de manière autonome, demande encore Alain Grèche dans cette tribune du Monde. Car en effet, aujourd'hui, cette nouvelle parole antiraciste qui émerge, c'est celle de personnes qui revendiquent une certaine légitimité à en parler et à le défendre mieux, parce qu'elles le subissent, ce racisme. Mais comment faire entendre cette parole aujourd'hui, une parole qui se revendique racisée, indépendante, décoloniale, telle que ce camp d'été de formation à l'antiracisme qui commence aujourd'hui? Est-ce que les luttes antiracistes que l'on connaît depuis plus de 30 ans et celles qui émergent aujourd'hui pourront un jour trouver un dénominateur commun pour unir leurs paroles et leurs luttes? Alors antiracisme, touche pas à ma lutte, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, je reçois quatre invités ce soir. Siam Asbag, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militante antiraciste et féministe, porte-parole du collectif Stop le contrôle aux faciès et vous êtes à l'initiative avec Fania Noël d'un camp d'été décolonial qui débute donc aujourd'hui même. On va en parler évidemment en détail au cours de cette émission. En face de vous, Julien Talpin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences politiques au CNRS, spécialiste notamment de la démocratie participative et des organisations communautaires. Et vous avez publié plusieurs tribunes, notamment dans le journal Libération, qui parlent de ces luttes antiracistes. Et vous avez publié en avril dernier Community Organizing aux éditions Raison d'Agir. Au téléphone, Françoise Dumont est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la Ligue des droits de l'homme. Et enfin, toujours au téléphone, Augustin Grosdois. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la présidence collégiale du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Alors, aujourd'hui commence ce camp d'été décolonial et on l'avoue à nos auditeurs, on a dû enregistrer cette émission un tout petit peu en avance pour vous laisser, Siam Asbag, partir près de Reims pour couvrir, diriger cet événement qui commence donc aujourd'hui. C'est 4 jours de formation et d'ateliers près de Reims en Champagne-Ardenne sur inscription. Dans le programme provisoire, on peut lire des intitulés comme « Combattre le racisme en milieu scolaire »,« Les luttes contre l'islamophobie »,« Construire une lutte anti-négrophobie en contexte français ». Dans les formations, il y a la désobéissance civile, du média training, violence et harcèlement policier. On pourra encore donner plus de détails tout au long de cette émission. Mais déjà, une première question, Siam Asbag. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il fallait réinventer, selon vous, la lutte antiraciste?
Alors, je dirais pas réinventer, puisque en fait, elle se réinvente quotidiennement depuis plus de 30 ans dans les quartiers populaires et par le biais des luttes de l'immigration qui ont été menées par nos aînés et dont nous sommes aujourd'hui de simples héritiers. Mais par contre, il fallait imposer une rupture beaucoup plus forte, puisqu'il y a des choses qui n'ont visiblement pas été comprises, pas été entendues et pas du tout respectées. Et surtout, il fallait offrir la possibilité à des militants ou non, partout en France, de participer à une formation théorique et pratique sur l'antiracisme politique.
Qu'est-ce qui n'a pas été entendu?
Ce qui n'a pas été entendu, c'est...
Qu'est-ce que les associations antiracistes, jusqu'à maintenant, n'ont pas inclus dans leur problématique, selon vous?
La première des choses, c'est qu'elles n'ont pas inclus, pas toujours inclus, ou en tout cas pas à des niveaux de direction et d'orientation politique, les premiers concernés. Moi, quand je regarde les organisations traditionnelles antiracistes, ça m'amuse toujours de voir que ce sont la direction, en tout cas, est généralement portée par des hommes blancs, souvent d'ailleurs quarantenaires, cinquantenaires, etc. Et ça pose question. C'est comme si la lutte féministe était portée par des les hommes. Je pense que ça interrogerait. C'est le même cas pour l'antiracisme. L'autre chose qui n'a pas été suffisamment incluse, c'est que on a eu très tendance en France à se focaliser sur le racisme interpersonnel, sur le racisme entre individus. Alors, on ne dit pas que c'est pas important, on dit juste que ça n'abîme pas autant les vies des racisés, ça n'abîme pas autant les parcours de vie et la manière d'organiser, de penser son existence et celle de ses enfants que le racisme structurel que l'on retrouve dans toutes les structures et tous les systèmes de la société française et de l'État. C'est-à-dire que on va avoir nous tendance à beaucoup plus s'intéresser effectivement au racisme au sein de l'institution policière, au racisme au sein de l'éducation nationale, au racisme au sein des services de santé, etc. etc. Et ça, c'est ça change. Et le troisième point, juste pour terminer, c'est qu'il y a malheureusement une dépendance des organisations traditionnelles antiracistes vis-à-vis du pouvoir. Elles tirent de là leurs subventions. Elles sont très liées. Je prends notamment l'exemple de SOS Racisme, qui a travaillé des années et des décennies main dans la main avec le Parti socialiste. Et nous revendiquons un antiracisme indépendant, tout simplement parce que ce que nous dénonçons en priorité, c'est le racisme institutionnel et le racisme de l'État français. Donc pas possible de travailler main dans la main avec des partis politiques et pas possible de travailler main dans la main ou de tirer des subventions de ce qu'on dénonce.
Alors beaucoup de choses dans ce que vous dites, Siam Hasbeg, et sur lesquelles je pense Augustin Grosdoy et Françoise Dumont auront à vous répondre. Mais avant toute chose, je voudrais entendre Julien Talpin sur la question. Est-ce que la lutte antiraciste aujourd'hui a laissé de côté ce racisme institutionnel structurel dont parle Siam Hasbeg?
Laisser de côté, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle génération antiraciste met le doigt sur quelque chose qui a du mal à être entendu dans la société française. Et donc, c'est le racisme qui est lié à un certain nombre d'institutions, que ce soit l'institution policière, l'institution scolaire, le fonctionnement des services d'accès à l'emploi, les bailleurs sociaux, etc. Et donc, effectivement, la société française a du mal à l'entendre. Et ce que cette nouvelle génération antiraciste met en avant, c'est la centralité de cette question-là dans ce que vivent aujourd'hui les habitants des quartiers populaires.
Augustin Grosdoy, pardon, sur cette question. Donc, Siam Hasbeg disait que les associations antiracistes, jusqu'à maintenant, ont toujours été plus ou moins dirigées par des hommes, plutôt quadragénaires, quinquagénaires, blancs, que c'était un peu l'apanage de cette lutte antiraciste, qu'il y avait aussi des sphères de la société qui étaient oubliées par ces associations. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces questions, Augustin Grosdoy?
Sur cette question, il serait inutile de nier que, comme toutes les associations, les difficultés que rencontrent les associations antiracistes sont bien réelles pour s'implanter de manière systématique partout, dans toutes les couches de la société et dans tous les lieux. Mais je constate, pour l'exemple du MRAP, que le fait que nous soyons implantés sur l'ensemble du territoire, que nos comités locaux irriguent l'ensemble du territoire, nous permet de toucher effectivement toutes les couches de la société et toutes les personnes, enfin toutes, au moins celles qui viennent prendre contact avec nous, qui sont victimes de racisme, quelle que soit leur situation sociologique d'une manière générale. Je m'étonne un peu dans ce qui a été dit sur la question du racisme systémique, comme on l'appelle régulièrement, et le fait que nos associations ne seraient pas capables de dénoncer lorsque c'est nécessaire et de lutter contre les politiques racistes de l'État. Le MRAP, comme bien d'autres, est engagé, puisque Madame Hasbeg y faisait référence tout à l'heure, dans la lutte contre les contrôles aux faciès. Je peux aussi rappeler que dans un passé un peu lointain, puisque le MRAP date pour sa création de 1949, le MRAP a été porteur de la loi, enfin pour obtenir le vote de la loi contre le racisme, la loi Pleven de 1972, qui est pour tous un point d'appui essentiel lorsque les victimes du racisme demandent reconnaissance et réparation des préjudices qu'ils ont subis.
je voudrais entendre Françoise Dumont sur cette question, parce que la LDH, la Ligue des droits de l'homme, qui n'est pas une association antiraciste de manière spécifique, qui défend les droits des personnes opprimées, des droits bafoués en général, les droits des femmes aussi, mais la LDH s'inscrit dans l'actualité dernièrement en publiant notamment ces derniers jours deux communiqués de presse, l'un sur l'interdiction du burkini sur les plages et sur les propos du maire de Cannes à ce sujet, faisant amalgame entre femmes musulmanes et dangers terroristes, et l'autre communiqué par rapport aux propos du Premier ministre qui viennent, comme je cite le communiqué, viennent ajouter de l'attention au grotesque. La LDH qui a décidé d'ailleurs de saisir la juridiction administrative d'une procédure en suspension de l'arrêté sur le burkini et d'une plainte pénale contre le maire de Cannes. Françoise Dumont, est-ce que c'est le devoir d'une association antiraciste aujourd'hui de s'engager un peu plus contre ces paroles, contre cette actualité d'une parole politique qui pratique ce genre d'amalgame?
Écoutez, comme vous l'avez souligné vous-même, c'est vrai que nous sommes une association généraliste, ce qui est parfois lourd à porter, y compris pour les militants bénévoles qui s'inscrivent dans l'action de la Ligue. Mais par rapport à l'actualité qui est extrêmement prégnante aujourd'hui, nous avons entamé ces procédures et nous les entamerons à chaque fois qu'il y aura un arrêté. Parce qu'effectivement, nous considérons que ces arrêtés procèdent d'une véritable stigmatisation de la population musulmane, et notamment des femmes, et que ces arrêtés procèdent avec des arguments variables, certes, mais d'une forme d'islamophobie.
Augustin Grosdois, sur cette question, est-ce que les prises de position, les vôtres et celles, par exemple, d'associations comme la LICRA, comme SOS Racisme, ne devraient pas être plus claires et plus ancrées dans l'actualité aujourd'hui, l'actualité politique notamment ?
Je pense que sur la question de... Je n'ose pas dire du burkini, parce que ce n'est pas le problème essentiel. Mm-hmm. Nous avons une position qui est sans ambiguïté, même si effectivement il n'y a pas eu, disons, dans les jours qui viennent de se passer, la publication d'un communiqué.
Et comment l'avez-vous fait connaître, cette position ?
Elle a circulé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de communiqué de presse de fait. Je voudrais profiter justement là-dessus pour dire deux choses. La première, il ne faut pas, je partage tout à fait ce qu'a dit Madame Dumont, et le MRAP peut s'associer à l'initiative judiciaire qu'a engagée la Ligue des droits de l'homme. Ce qui nous paraît sur cette histoire de burkini, puisqu'on en parle, deux choses. La première, il ne faut pas pêcher par excès de naïveté. Nous savons bien que, notamment, l'association Smile 13 qui a pris l'initiative de proposer une journée burkini pour le début septembre est une association qui, il suffit d'aller voir leur page Facebook, du moins tant qu'elle était disponible, qui a une conception rétrograde de la vision de la femme, et cela nous ne l'acceptons pas. Je pense qu'il faut lutter pour effectivement la liberté et l'émancipation des femmes en toutes circonstances. La deuxième chose qui me paraît grave, c'est que effectivement, comme ça a été souligné, on fait des amalgames entre une minorité rétrograde de musulmans qui ne représente qu'une infime minorité et qui ne représente absolument pas l'ensemble des musulmans présents en France, qui sont d'ailleurs très divers, comme est diverse la société française. Et on voit bien là qu'il y a une instrumentalisation assez directement politique des incidents qui ont pu avoir lieu et qui sont d'ailleurs relativement réduits, ici ou là, dans une perspective, ne le cachons pas, politique, où on voit la droite dure qui essaye de braconner de nouveau sur le terrain de l'extrême droite, et qui est partie dans une surenchère qui est tout à fait dangereuse, et on ne peut que regretter, de ce point de vue, comme l'a rappelé Madame Dumont, les prises de position du Premier ministre.
Siam Asbak, sur cette question, est-ce que il est du devoir aujourd'hui d'une lutte antiraciste de se focaliser sur la parole politique ?
Alors, de se focaliser, non. Je veux dire, il se passe tellement de choses aujourd'hui sur les questions des racismes que je comprends tout à fait que des associations soient sous l'eau et du mal à se positionner sur tous les sujets, etc. Nous-mêmes, on le sait. En revanche, juste ce qui me fait doucement rire, c'est les propos d'Augustin qui à la fois nous explique
d'Augustin Gredois
que il n'a aucun mal à prendre position sur l'islamophobie, mais nous dit qu'il n'y a pas eu de communiqué du MRAP sur ce qui se passe sur ce qu'on appelle les affaires Burkini, même si évidemment ce n'est pas le mot adéquat. Ça interroge. Comment est-ce qu'une association antiraciste aussi importante... Il faut rappeler que contrairement à nous, le MRAP a les moyens. C'est ça aussi les différences entre nous, c'est qu'ils ont les moyens humains et financiers surtout de prendre position sur ces questions-là. Comment ça se fait que le MRAP n'ait pas pu produire un communiqué et n'ait pas réagi publiquement à cette question-là si c'est une association antiraciste ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas voir l'islamophobie galopante, c'est même plus galopante là, c'est la cape de Superman, l'islamophobie en France. Il faut être aveugle pour ne pas voir cette islamophobie. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'elle est institutionnalisée et instrumentalisée par l'État français et qu'elle va avoir des effets extrêmement dangereux, contre-productifs et néfastes sur la société française. Donc je m'interroge sur l'absence de positionnement du MRAP. Et de la même manière, moi je veux bien qu'on parle des valeurs conservatrices de l'association SMILE. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui toutes les personnes en France qui sont des conservateurs sont privées de leur liberté ? Puisque c'est ça la question, c'est est-ce qu'on prive les gens de liberté en fonction de leur positionnement politique ou de leur positionnement sur telle ou telle question. Si oui, la réponse, alors faisons-le pour tout le monde. Sinon, la réponse, interrogeons-nous sur les choix qui sont faits, quelle population ils ciblent et quel message ça renvoie.
Alors, cette question du positionnement pose aussi celle du terrain sur lequel vous agissez tous respectivement, que ce soit le terrain du camp d'été ou d'une association ou d'une rue ou celui aussi des réseaux sociaux et d'Internet sur lequel, Siam Asbak, par exemple, vous êtes assez présente. Mais avant toute chose, j'aimerais entendre Françoise Dumont qui voulait réagir aux propos d'Augustin Gredois.
Oui, je voulais réagir, même si effectivement cette histoire du burkini est un peu grotesque. C'est vraiment le terme qu'on a utilisé dans notre communiqué de presse, je crois. Mais il faut effectivement, et Siam vient de le dire, il faut vraiment être conscient qu'on est dans une période où la surenchère ne va pas cesser. Nous avons une période préélectorale et on voit bien que ce soit par rapport aux questions de sécurité, que par rapport aux questions de l'islam, la surenchère va continuer et je crois qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à ça et que derrière aussi ces questions-là se cache une certaine conception de la laïcité que nous ne pouvons pas partager. Nous sommes très attachés à la loi de 1905 et la loi de 1905 autorise l'expression de son appartenance religieuse sur la voie publique ou sur une plage. Et effectivement, ce sont toujours les mêmes populations qui sont visées. Les prières de rue, c'est tout le monde en parle, mais quand il y a une procession, ça ne pose pas de problème. Et là, je crois qu'il y a deux poids, deux mesures sur lesquels nous, en tant que Ligue, on ne peut pas se taire.
Alors, sur la question des revendications, on a à peu près bouclé ce premier point, mais on va partir sur la question de l'action et du terrain. Je voudrais faire référence à un article de Ouria Bouteldia et Sadri Kiari qui s'intitule « À quoi sert l'antiracisme universel ?» faisant référence aux actions du MRAP, de SOS Racisme, de la LICRA notamment. Article publié sur le site des Indigènes de la République qui parle de bonne conscience de l'antiracisme universel et qui reproche un engagement prédominant de cet antiracisme dans la cause des sans-papiers, qu'il qualifie de tropisme de SOS Racisme, par exemple, le pote idéal, du fait de sa vulnérabilité, de son absence d'identité, alors que, par exemple, les Arabes, les musulmans, les Noirs, sont français, questionnent de manière beaucoup plus profonde le problème de l'identité en France. Est-ce que Augustin Gredois, vous recevez, vous écoutez ces remarques de défense sélective aujourd'hui, est-ce qu'elles vous paraissent valables ?
Non, mais justement, je pense que ça n'est absolument pas valable et je ne me sens pas concerné par cette critique. Je voudrais rappeler que pour nous, et puis d'une manière plus globale, le racisme est un mal universel et qui a un fondement qui est le même partout, hein, qui est celui de l'essentialisation des personnes et des groupes de personnes, qui permet ensuite de les discriminer. Et ces discriminations-là, ça peut aller loin, hein, ça peut aller jusqu'au génocide. Je pourrais rappeler la Shoah, mais je pourrais en rappeler d'autres. Mais ce racisme-là prend des formes diverses. Hein, y a l'antisémitisme qu'il ne faut pas oublier. Et je trouve que dans beaucoup d'endroits, et notamment, Madame Boutelja et les porteurs du stage décolonial, pardon.
Du camp décolonial.
Oui, le camp décolonial, excusez-moi, l'oublie aussi. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres, hein, y compris, on vient des exemples très récents, hein, il suffit de penser au père chinois de 49 ans qui vient de mourir à Aubervilliers à la suite d'une agression raciste, hein, à caractère raciste. Et il y a aussi, il ne faut pas les oublier, les Roms, il ne faut pas les oublier non plus, les Noirs. Bon, et je pourrais continuer la liste. Mm-hmm. Et donc, c'est de tous ces racismes, toutes ces formes de racisme-là, que le MRAP combat, et il n'est pas le seul, évidemment. Hein, d'une part. D'autre part, je voudrais souligner un autre fait qui me paraît extrêmement important. La distinction entre ce qui est appelé, souvent pour le déconsidérer, antiracisme moral et antiracisme politique, cette distinction n'a pas de sens. Parce que, en fait, dans toutes les luttes antiracistes, y compris lorsqu'il s'agit d'accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes victimes de racisme, il s'agit bien de mettre en cause les dysfonctionnements dans notre vivre ensemble et exiger la disparition de toutes les formes de racisme et sous toutes ces formes. Cette lutte-là permet d'améliorer le vivre ensemble et c'est ce à quoi doit contribuer le combat antiraciste, y compris en prenant en compte, puisque ça a été évoqué, l'héritage colonial de la France qui pèse lourd, c'est vrai. Et mais effectivement,
c'est-à-dire,
aujourd'hui...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Augustin Grosdoyt, l'héritage colonial lourd qui doit peser sur cette lutte antiraciste, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire que la France n'a toujours pas liquidé son passé colonial. Il suffit de regarder les débats qui a pu avoir lieu, y compris il y a quelques temps sur l'héritage positif de la colonisation et les conséquences que ça a aujourd'hui sur les personnes qui sont issues des anciennes colonies françaises.
Alors je voudrais entendre Julien Talpin sur la question du terrain sur lequel doit se mener la lutte antiraciste aujourd'hui. Je faisais allusion tout à l'heure justement aux sans-papiers qui excluaient, selon les mots d'Ouria Boutelja, les jeunes de banlieue, par exemple, qui étaient aussi victimes de racisme, mais qui ne se sentaient pas concernés par le discours antiraciste aujourd'hui. Le fait de ne s'intéresser majoritairement aux sans-papiers, est-ce que ça exclut une certaine partie de la population de la lutte antiraciste, au-delà du discours?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin, il y a une demande sociale extrêmement forte de prise en charge de cette question, de la question raciale dans la société française, chez les Français, descendants de l'immigration, deuxième, troisième génération, qui ont le sentiment massif, et ça ressort quand même très fort des enquêtes que je peux mener dans les quartiers populaires, qui ont le sentiment d'être traités comme des Français de seconde zone, du fait de leur couleur de peau, de leur croyance religieuse, etc., et donc de ne pas être traités comme des citoyens à part entière. Et donc il y a une demande sociale qui, jusqu'à une période récente, n'était pas véritablement prise en charge. Après, je crois pas qu'il faille nécessairement opposer les mobilisations en faveur des sans-papiers, des réfugiés ou des minorités françaises, dans le sens où beaucoup d'organisations, y compris celles qui se rangent dans le camp de l'antiracisme politique, mènent également des luttes en faveur des réfugiés, des Roms et des sans-papiers. Bon, après, les forces et les ressources sont limitées, et donc il faut savoir où est-ce qu'on veut mettre l'accent. Et je crois qu'il y a un réel enjeu aujourd'hui pour la société française à travailler la question de l'égalité pour les Français descendants d'immigration.
Siam Hasbag, le but de ce camp d'été décolonial, est-ce que c'est aussi de sensibiliser des personnes qui ne se sentent pas concernées par le militantisme antiraciste?
Oui, enfin non, pas vraiment, puisque là les gens qui se sont inscrits sont des gens militants ou pas, mais en tout cas qui sont intéressés par ces questions-là et qui voulaient
déjà intéressés à la base.
Qui sont intéressés de toute façon, enfin vu le programme, il faut avoir un minimum d'intérêt de toute façon pour y aller et vouloir creuser à la fois ces questions-là et la manière de lutter contre, hein, d'organiser, enfin là, de s'organiser sur des territoires, de s'organiser sur des thématiques précises. et de devenir militant. Je voulais juste rebondir sur les propos d'Augustin Grudois sur la question du racisme. Alors, il parle effectivement d'essentialisation, mais le racisme, ce n'est pas que ça. Le racisme, c'est une question de pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui fait la différence entre l'antiracisme moral et l'antiracisme politique. C'est que pour nous, qui dit racisme dit pouvoir. Il s'agit de savoir qui possède le pouvoir et qui est donc dénué du pouvoir. Le racisme, aujourd'hui, c'est... Et moi, je suis tout à fait contre cette manière de présenter le racisme comme un fourre-tout et comme... Enfin, voilà, avec cette tendance à dire que tout le monde est le raciste d'un autre. Oui, mais non. En fait, non. Concrètement, non. Parce qu'il y a des rapports de domination qui existent dans la société française et qu'on le retrouve à l'œuvre dans plusieurs pays et qui influent sur la manière dont on essentialise certaines catégories de la population et dont on les discrimine. Il s'avère que, et c'est un produit de l'histoire, c'est pas nous qui l'inventons, il s'avère que plusieurs événements historiques, plusieurs faits ont créé ces rapports, cette racialisation et l'ont opéré de manière à ce qu'il y ait un groupe positif qui est perçu de manière positive, qui est généralement le groupe blanc. En fait, ce sont les blancs qui sont le plus perçus comme qui disposent d'un marqueur de racialisation positive, et les autres, donc les non-blancs, qui à qui l'on impose un marqueur de racialisation négative, qui conduit à énormément de préjugés, de stigmates, etc. Donc, bien évidemment qu'il faut prendre en compte tous les racismes. Et j'invite Monsieur Grudois à aller bien relire notre programme, puisque nous parlons de la homophobie, nous parlons de l'antisémitisme, nous parlons du racisme anti-asiatique, mais parce que nous prenons en compte la question du pouvoir, nous expliquons que ce sont des racismes différents, qu'ils n'ont pas tous les mêmes origines, qu'ils n'ont donc pas tous les mêmes remèdes, et qu'ils sont utilisés et ou instrumentalisés de manière différente par l'État français. Et enfin, dernier mot, parce que c'est important, encore une fois, parce que je le rappelle, le racisme est une question de pouvoir. Tous les racismes ne sont pas des racismes d'État. Tous les racisés en France ne subissent pas la pression étatique et institutionnelle de la même manière. J'invite le MRAP à creuser cette question.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Antiracisme touche pas à ma lutte, c'est la question sous forme d'affirmation que nous posons ce soir dans notre émission avec Sia Masbag, militante antiraciste qui a l'initiative, entre autres avec Fania Noël, d'un camp décolonial d'été qui débute aujourd'hui, avec Julien Talpin, chercheur au CNRS en sciences politiques, avec Françoise Dumont, présidente de la LDH, et Augustin Grudois, membre de la présidence collégiale du MRAP. Alors, je voudrais qu'on en vienne assez vite à cette idée de camp décolonial. C'est un camp d'entraînement dans la présentation de cet événement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'antiracisme doit nécessairement faire l'objet d'une formation, Françoise Dumont?
Bah, écoutez, on ne peut pas nier, et c'est ce que a dit Sia Masbag, on ne peut pas nier quand même qu'il y a des formes de racisme qui sont niées, en tout cas minorées. Et que un certain nombre d'institutions, notamment, s'estiment au-dessus de tout soupçon, et je pense notamment à l'éducation nationale, alors qu'on sait bien que c'est pas si simple que ça. Moi, je crois vraiment que le problème de la lutte contre le racisme, c'est que quoi qu'on en dise, on l'a longtemps cantonné dans une sorte de discours moralisateur, en disant aux gens c'est pas bien d'être raciste, d'ailleurs en expliquant ça de préférence à ceux qui sont eux-mêmes victimes du racisme, et que tant qu'on parlera du racisme de manière déconnectée d'un certain nombre de pratiques sociales, ce discours aura du mal à se faire entendre. Oui. Et moi je suis vraiment... Nous, en tant que Ligue, alors c'est vrai qu'on défend les Roms, on défend aussi les sans-papiers. Je vous dis, on est une association généraliste, ce qui nous donne beaucoup de travail. Mais en même temps, je crois qu'il faut, on est vigilant à essayer d'être présent sur l'ensemble des terrains.
Augustin Grudois, sur plusieurs questions, dont sur celle de cette déconnexion, de cette vigilance à ne pas déconnecter la lutte antiraciste de préoccupations sociales, comme le disait Françoise Dumont.
Oui, mais c'est le souci permanent du MRAP. Sur cette question-là, je ne vais pas y revenir plus. Mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame Asbach tout à l'heure. Effectivement, tout à l'heure, j'ai expliqué que le racisme, même s'il était unique dans ses bases idéologiques, prenait des formes qui étaient différentes selon les situations et qui avaient des conséquences différentes. Je ne vais pas y revenir plus, simplement pour souligner que il n'y a pas une connexion directe et permanente entre la notion de domination et la notion de racisme. Ou alors, ça voudrait dire deux choses en particulier, qu'il n'y a pas de racisme entre des couches, des parties de la population qui sont elles-mêmes dominées. Or, ce qui vient de se passer à Aubervilliers, par exemple, et je pourrais donner d'autres exemples, est la preuve du contraire. Et puis, si on continue cette logique, on ne peut pas vraiment dire non plus que les Juifs, ceux qui au moins se reconnaissent pour tels, soient dans une situation de dominer. Et pourtant, l'antiracisme est un fait, et un fait dramatique dans un certain nombre de cas. Je voudrais revenir aussi, parce que ça me paraît important, sur la question sur le terme blanc que Madame Asbach a utilisé à plusieurs reprises.
Alors ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard, parce que je voudrais entendre Julien Talpin sur la question que vous aviez évoquée précédemment. Je vous voyais réagir, Julien Talpin, en studio.
Non, mais c'est un grand débat de savoir s'il existe effectivement du racisme entre les dominés entre eux, par exemple entre Noirs et Arabes dans les quartiers populaires, où on parle aussi beaucoup de racisme anti-blanc aujourd'hui. C'est quelque chose qui fait pas mal débat. Il existe effectivement des opinions qui peuvent être plus ou moins dépréciatives, des stéréotypes, des préjugés, etc. Néanmoins, un élément qui me semble important et que les sciences sociales mettent fortement en avant, c'est que le racisme n'est pas qu'une question d'opinion, c'est une question de pratique et de rapport de pouvoir. Et que si, pour revenir à la question du racisme anti-blanc, on peut entendre ici ou là des commentaires et des injures, des insultes racistes et dépréciatives, les rapports de pouvoir ne sont pas des défavorables pour les Blancs, et que les pratiques discriminatoires sont toujours défavorables aux mêmes, et à savoir aux non-Blancs, aux racisés, aux Noirs et aux Arabes dans la société française. Et donc il faut bien distinguer quand même, ce qui est de l'ordre de l'opinion et ce qui peut être déploré, effectivement, on peut déplorer ces insultes, etc., de ce qui est un désavantage systémique et systématique d'une catégorie de la population et qui est lié à un racisme institutionnalisé.
Sur la question de l'action, parce que je parlais du camp, vous dites, Julien Talpin, que les associations antiracistes jusqu'à aujourd'hui se sont beaucoup focalisées sur la sensibilisation. Est-ce qu'il y a un manque d'action aujourd'hui à déplorer?
Alors, la formation, c'est très bien, et je crois que le camp des coloniales vise précisément à former cette génération d'activistes, à créer au fond une culture commune. J'ai néanmoins le sentiment, effectivement, que il est probablement nécessaire d'aller plus loin aujourd'hui. Au fond, le mouvement antiraciste a toujours fait beaucoup de formation, d'éducation pour déconstruire les préjugés, etc. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller mobiliser les gens, en particulier les premiers concernés dans les quartiers populaires, pour qu'ils passent à l'action sur une question sur laquelle ils sont sensibles. Moi, ce qui me frappe dans mes recherches, c'est d'un côté un sentiment d'injustice, une colère extrêmement forte autour des questions de discrimination et de racisme dans les quartiers populaires, et en même temps le fait que il y a pas des bataillons de militants prêts à s'engager qui sont extrêmement extrêmement nombreux. C'est ce décalage entre ce sentiment d'injustice et le fait que la mobilisation demeure faible, et donc il y a un travail, il me semble, pour aller chercher les gens et les mobiliser sur ces questions sur lesquelles ils sont sensibles. Je pense qu'il y a un potentiel extrêmement fort de mobilisation, et c'est probablement là-dessus qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui, d'autant plus si on veut créer du rapport de force et véritablement changer la donne.
Augustin Grosdoy, je reviens vers vous parce que vous aviez commencé à évoquer donc cette notion de blanc, de racisme anti-blanc. C'est ce que vous reprochez, vous, aujourd'hui à ces nouvelles luttes antiracistes et à ce camp des coloniales d'été d'être dans une lutte racisée?
Non. Ce que nous lui reprochons, c'est diffusé par les organisatrices du camp des coloniales d'été, c'est l'extrême grande confusion qu'il y a entre les rapports sociaux et les rapports racistes, disons, pour faire vite. Ainsi, lorsqu'on regarde les textes, ceux de Madame Asbach et ceux du Parti des Indiens de la République à laquelle il est fait référence dans les documents, c'est que à partir du moment où on est dominant, on est entre guillemets blanc, et à partir du moment où on est dominé, on est non blanc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce qui prime dans les rapports sociaux, effectivement, ce sont les positions sociales, les rapports de force sociaux. Je suis bien d'accord avec Monsieur Talpin là-dessus, parce qu'enfin quoi? Est-ce qu'on va se retrouver dans la situation où le travailleur qui vient d'être licencié parce qu'il est blanc gouvernement doit comment dire travailler la main dans la main avec le PDG qui l'a licencié. Ça n'a sociologiquement et humainement et politiquement pas de sens. Et d'ailleurs, quand on regarde les documents du Parti d'Ingénieurs de la République, la confusion est poussée à son extrême quand il parle de classe raciale. Je sais bien que bon, le discours qui est tenu explique comme quoi la blanchité c'est un rapport social. Il n'empêche que dans l'esprit du grand public et dans l'esprit de ceux qui subissent le racisme, cette confusion est extrêmement dangereuse parce qu'elle aboutit à transformer des rapports sociaux et des rapports de lutte sociaux en rapports de lutte de race. Et ça, pour nous, c'est extrêmement dangereux.
Mais c'est justement peut-être le rôle d'une association antiraciste de clarifier toutes ces notions. Siam Asbagh, dans ce camp décolonial d'été, donc vous insistez, c'est un camp réservé aux personnes qui le subissent, ce racisme. Mais est-ce que cette logique ne peut pas, à terme, être contre-productive de priver des personnes blanches qui se sentent impliquées dans cette lutte antiraciste de ne pas porter cette parole aussi?
Alors, plusieurs choses. dans l'ordre. Premièrement, quand on dénonce un racisme structurel et un racisme d'État, et quand on parle de la blanchité, des rapports raciaux et sociaux, etc., etc., on ne nie pas, on ne tait pas le racisme intercommunautaire qui peut exister. Par exemple, Monsieur Grosdoy va être content. On peut évidemment parler de la négrophobie arabe, c'est-à-dire de ce racisme anti-noir de la part des Arabes que l'on retrouve en France au sein de certaines populations, de certaines populations, mais aussi notamment dans les pays du Maghreb. Certes, alors oui, bien sûr, évidemment. Sauf que, encore une fois, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, le racisme anti-noir de la part des Maghrébins et des Arabes en général en France n'a pas le même effet que le racisme de l'État français, que le racisme institutionnel, etc., etc. Ce n'est pas la même chose. Donc moi, je veux bien qu'on s'amuse à tout mettre sur le même plan et à tout confondre sans aller interroger aussi qu'est-ce qui a provoqué cette négrophobie arabe en niant les responsabilités notamment de la colonisation française, etc. Moi, je veux bien qu'on mette tout sur le même plan, mais à ce moment-là, ce n'est plus une discussion honnête, politique que nous avons, mais une tentative d'évitement et dédouanement. Et cette tentative d'évitement, on la retrouve quand M. Grosdoy, mais ce n'est pas le seul, je le pardonne, quand il nous parle de la lutte, des luttes sociales. Quand est-ce qu'on a été silencieux sur les luttes sociales? Ce n'est pas ce que nous disons. À chaque fois qu'on nous parle de lutte antiraciste, on nous parle de lutte sociale. Mais ce qu'on dit tout simplement, c'est que, premièrement, la question sociale a toujours été une question raciale. Et là, je vous renvoie à l'histoire du capitalisme et à la manière dont il a utilisé et exploité les non-blancs et les populations racisées. Et il y a évidemment une lutte sociale, il y a évidemment une domination sociale qui existe, mais il y a aussi une domination raciale qu'il faut adresser et qui s'explique encore une fois par des processus de racialisation qui marquent différemment les individus en fonction des catégories sociales auxquelles ils appartiennent. Et malheureusement, c'est l'un des gros bémols et l'un des grosses problématiques de la lutte antiraciste traditionnelle française, c'est qu'elle a tendance à vouloir tout mélanger, à vouloir tout mettre sur le même plan, alors que ce qu'il faut, c'est absolument traiter la question raciale dans son intégralité, et après, très certainement, la lier avec la question sociale. Elles s'articulent de manière, de toute façon, indépendante et
obligatoire. Je voudrais entendre Françoise Dumont sur cette question, justement. Françoise Dumont, présidente de la Ligue des droits de l'homme, donc qui ne s'occupe pas que de la question du racisme au sein de la Ligue des droits de l'homme, mais justement sur cette question de la précision, de la définition du racisme. Est-ce que c'est le rôle premier d'une association antiraciste aujourd'hui pour porter une parole de la sorte?
Je crois qu'effectivement, une organisation antiraciste a un rôle important à jouer dans ce domaine-là. En tout cas, moi, ce que j'entends à partir des interventions qui ont pu avoir lieu, c'est je crois que la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'on se parle. Et vraiment, je crois qu'il y a des choses qui sont présentées en termes d'opposition, qui ne le sont pas, et qu'il y a un certain nombre de malentendus qu'on ne pourra pas lever si on ne se parle pas. C'est pour ça que nous, à la Ligue, sur ces questions-là, nous souhaitons vraiment avoir un dialogue ouvert et que nous refusons le débat avec aucune organisation a priori. Je crois que les enjeux sont trop importants et vont être trop importants dans les mois, dans les années à venir, pour qu'on puisse comme ça penser qu'on peut se passer les uns les autres. Et le rôle de la Ligue, ça a toujours été le rôle qu'elle a pu avoir, ça a été justement d'essayer d'ouvrir le dialogue, construire des ponts quand c'est possible, peut-être c'est pas toujours possible, mais en tout cas je crois que vraiment les enjeux d'aujourd'hui font que c'est indispensable.
Vous nous amenez vers la question que je voulais poser à la fin de cette émission, Françoise Dumont, qui est la possibilité un jour de faire converger les paroles et les luttes antiracistes. Alors on a eu beaucoup de mal à inviter un représentant d'une association antiraciste traditionnelle qui ne voulait pas confronter sa parole à celle d'une nouvelle parole antiraciste, à la vôtre en l'occurrence, Yamas Bag, Dominique Sopo de SOS Racisme et Monsieur Jakubowicz aussi de la LICRA ont décliné l'invitation en expliquant qu'ils ne voulaient pas confronter leurs paroles à la vôtre. Vous défendez pourtant les mêmes personnes, vous défendez les mêmes victimes. Pourquoi aujourd'hui, je m'adresse à Julien Talpin, le chercheur, pourquoi aujourd'hui ces paroles-là ne peuvent pas se confronter? Pourquoi il y a une impossibilité de se parler?
Je crois qu'il y a des cultures politiques qui sont très différentes et je crois que, d'une certaine façon, le nouvel antiracisme politique fait peur, en fait. Il vient interpeller très fortement l'antiracisme historique qui se sent un petit peu déstabilisé et mis en cause. Et d'ailleurs, c'est fait très explicitement sur ce plateau en direction du MRAP, par exemple. Donc c'est un élément tout à fait central. Après, moi, je crois qu'il est néanmoins possible d'imaginer des formes de convergence de lutte sur des questions précises, spécifiques. C'était évoqué tout à l'heure sur l'amendement au projet de loi Égalité et Citoyenneté proposer la création d'un récépissé d'identité lors des contrôles aux faciès, qui est une lutte qui est menée depuis maintenant près de 5 ans par Stop le contrôle aux faciès et d'autres associations. On a vu une convergence entre différents acteurs, la LDH, le MRAP, les collectifs qui sont proches du nouvel antiracisme politique. Et donc voilà, je crois que il est peut-être nécessaire de débattre, mais c'est peut-être davantage dans l'action, concrètement, sur des revendications concrètes que des convergences pourront se faire, parce que je crois qu'il y a des clivages quand même qui sont tout à fait fondamentaux sur la question de l'islamophobie, on l'a entendu, sur l'interprétation des origines du racisme, il y a des clivages aussi importants et j'ai quelques doutes sur la possibilité de les dépasser. En revanche, par l'action collective sur des revendications précises, car il y a quand même un enjeu à faire avancer des causes concrètes et à faire émerger des politiques publiques antidiscriminatoires qui demeurent extrêmement, extrêmement pauvres en France quand on compare à ce qui peut se passer dans d'autres pays européens.
Vous pensez à quelles mesures concrètes, par exemple? À quelles actions?
C'est pas à moi de le définir, mais après, ça peut être... moi, je pense que, par exemple, sur le projet de loi Égalité-Citoyenneté, qui est censé être un des grands projets de loi de la fin du quinquennat Hollande, il y a quasiment rien, en fait, sur la lutte contre les discriminations. Le seul élément, c'est la pénalisation renforcée des propos racistes. Bon, comme je le disais tout à l'heure, le racisme n'est pas qu'une question d'opinion, c'est aussi une question de pratique. On pourrait imaginer sanctionner beaucoup plus fermement, par exemple, les entreprises qui sont repérées comme ayant eu des pratiques discriminatoires à l'embauche. Par exemple, aux États-Unis, il est, au fond, économiquement irrationnel pour une entreprise d'avoir des pratiques discriminatoires, parce que ce serait extrêmement coûteux d'un point de vue juridique et même financier d'avoir ce type de pratique. Au fond, en France, ça coûte pas très cher pour une entreprise de discriminer. Donc il y a plein de choses probablement à inventer et je crois que c'est sur ce type de revendications et de propositions précises que peut-être une convergence sera possible.
Françoise Dumont, en guise de conclusion, est-ce qu'il est possible de faire converger des actions collectives dans la lutte antiraciste plutôt qu'une parole, à défaut d'une parole?
Bah écoutez, je pense qu'effectivement, c'est souvent dans l'action que l'on peut se retrouver. L'exemple du contrôle aux faciès, je crois, a été un bon exemple. Et je trouve que c'est extrêmement grave que sur cette question-là, par exemple, le gouvernement actuel n'ait pas vu quels étaient les enjeux derrière ça. C'est sûr que ça suffira sans doute pas de se mettre autour d'une table si rien ne débouche. C'est pas mal, c'est pas suffisant, mais je pense qu'effectivement, il y a suffisamment de pratiques discriminatoires, que ce soit effectivement par les entreprises, par les bailleurs sociaux, pour qu'on puisse effectivement essayer d'avancer.
De se mettre d'accord sur une action collective. Donc on espère que ce sera le cas pour bientôt. Merci beaucoup à nos quatre invités, Siam Asbag, Julien Talpin, Augustin Grosdois, Françoise Dumont. Des références, des liens sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Tout comme cette émission, vous pouvez réécouter, podcaster. Un grand merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Chloé Leblanc, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti, Tanguy Omri, Milena Elig à la réalisation, et ce soir à la prise de son, c'était Olivier Dupré.